Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Alors que l'Irak sombre dans le chaos, dans une relative indifférence de la communauté internationale, le cardinal Barbarin lance un vibrant appel en faveur des chrétiens irakiens. L'archevêque de Lyon se fait aussi l'écho de l'inquiétude de Mgr Sacco. Vous l'entendrez dès le début de ce magazine. Nous reviendrons ensuite sur la situation en Centrafrique. Des conflits dans la région de Bambari ont fait près de 100 morts. Il y a 100 ans, l'Europe s'apprêtait à sombrer dans l'horreur. Le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc autrichien François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, déclenchait la Première Guerre mondiale. Entretien dans la deuxième partie de cette édition avec le directeur général de la mission française du centenaire de la Première Guerre mondiale. Bienvenue dans ce magazine. Sauvez-nous, c'est le cri de détresse lancé par l'archevêque syro-catholique Mgr Ioanna Petros Moshe face à l'avancée des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant dans la plaine de Ninive, au nord de l'Irak. Selon l'archevêque de Mossoul des Syriens, cité par l'agence Fides, la localité de Karakoche est pratiquement une ville fantôme. Plus de 90% des habitants, presque tous chrétiens appartenant à l'église catholique syriaque, ont fui ces deux derniers jours face à l'offensive des insurgés sunnites. Il faut intervenir tout de suite, insiste-t-il, pour empêcher la situation de précipiter, en œuvrant non seulement sur le plan des secours humanitaires, mais aussi au niveau politique et diplomatique. L'immobilisme devient complicité avec le crime et l'invasion. Le monde ne peut fermer les yeux devant le drame d'un peuple tout entier. C'est précisément pour lutter contre l'indifférence, pour réveiller les consciences, que le cardinal Philippe Barbarin a fait entendre sa voix. L'archevêque de Lyon a signé cette semaine une tribune dans le quotidien français Le Figaro, un plaidoyer pour que la tragédie vécue par les chrétiens d'Irak ne tombe pas dans l'oubli, mais aussi un geste d'amitié envers le patriarche des Chaldéens, Mgr Louis-Raphaël Sacco. Le primat des Gaules s'est entretenu avec lui au téléphone mardi soir, alors qu'il était réuni en synode avec une vingtaine d'évêques de la région.
Évidemment, les menaces sont très fortes. Alors, il y a une véritable explosion dont le choc majeur est entre les chiites et les sunnites et les kurdes aussi. Alors, il dit, moi, bien sûr, je préfère de loin une partition de mon pays entre une partie sunnite, une partie chiite et une partie kurde plutôt que de tuer des milliers et des milliers d'innocents, évidemment. Donc ça, ça appartient au gouvernement, aux diplomates, aux militaires, etc. Lui, en attendant, il essaye d'être près des gens et de son peuple, pas exclusivement des chrétiens. Et justement, il me dit, moi, votre amitié est pour moi très importante, bien sûr. Recevoir de l'argent, de la nourriture, des vêtements et les distribuer autant que nous pouvons, c'est très important. Mais c'est beaucoup plus important qu'on ait le sentiment clair, vif, précis, fraternel, de ne pas être oublié, d'être accompagné par la prière et par l'amitié des chrétiens des autres pays. C'est pour ça que je suis assez attaché à rester en lien avec lui, si vous voulez.
Et donc, vous avez parlé donc de la situation en Irak, et comment est-elle justement considérée en France ?
Si vous voulez, en France, on est, comme partout d'ailleurs, on est un peu gouverné par les médias. Et les médias n'ont pas fait leur priorité, bon, bah, parce qu'il y a le mondial, parce que je sais pas quoi, bon. Mais les médias aussi sont prêts à s'y intéresser. C'est pour ça que je trouve qu'il est utile de pousser un peu un cri, quoi, à l'intérieur des médias pour qu'on se réveille un peu. Ce n'est juger personne, c'est simplement un fait, vous voyez. Il y a des points où les médias s'enflamment et on en entend parler beaucoup, et d'autres qui sont signalés, mais sur lesquels on n'a pas insisté. Enfin, je veux dire, c'est pas le buzz médiatique qui juge de l'importance d'un sujet. Et donc, on peut dire, attendez, là, quand même, c'est quelque chose de très grave qui est en train de se passer. C'est une menace redoutable, ou pire encore, qui est devant nous. Donc, il serait temps que nous nous réveillions. Et les gens sont prêts, hein. Je vois ce petit appel rencontre beaucoup d'échos, ce que je trouve très touchant et intéressant, si vous voulez.
Vous avez parlé donc du point de vue des médias, mais également jusque dans les paroisses où il manque un petit peu de prise de conscience.
C'est assez loin, c'est étranger. Je sens les Français assez peu concernés, mais très ouverts, bien sûr. Et donc, quand j'ai lancé un appel aux paroisses, je leur dis, peut-être que vous pouvez faire quelque chose du point de vue d'une aide financière, du point de vue d'une aide concrète, etc. Bien sûr, je n'ai pas du tout envie que des quantités de chrétiens d'Irak arrivent en France. S'ils viennent chez nous, on fera ce qu'on doit pour les accueillir. Mais je préfère qu'ils restent chez eux, Parce que le pire pour les communautés chrétiennes, c'est que tout le monde s'en aille, bien sûr, parce qu'alors là, elles seront vraiment définitivement mortes. Ce sera d'ailleurs pas un plus pour le pays, parce qu'ils apportent aussi de la paix. Mais d'autre part, on comprend que les gens partent, parce que c'est quand même leur famille, leur vie qui est en jeu. Donc si nous, nous pouvons aider à ce qu'ils arrivent à vivre et qu'ils vivent correctement entre eux, c'est quand même un beau cadeau qu'on peut leur faire, en tout cas un signe de fraternité.
Le cardinal Barbarin, interrogé par Audrey Radondi. Le premier congrès antiochien a ouvert ses portes ce jeudi à Balamande, au Liban. La rencontre sur le thème « L'unité antiochienne, portée et exigence » est organisée par le patriarcat d'Antioche des Grecs orthodoxes sous la présidence du patriarche Jean X, primat de l'église grecque orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Ce congrès entend notamment manifester la force de l'unité chrétienne et confirmer l'attachement des chrétiens du monde arabe à leur terre, mais aussi dresser un état des lieux de cette présence chrétienne en Orient, à la lumière des développements souvent dramatiques qui s'y déroulent. Dans leurs discours inauguraux, les patriarches ont réaffirmé une solidarité liée à une source ecclésiale commune antiochienne, ainsi que la volonté d'unité. Une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople a débuté ce vendredi une visite à Rome dans le cadre de l'échange fraternel de délégations pour les fêtes des saints patrons. Cette délégation sera reçue en audience samedi par le pape François. Elle aura également des entretiens avec les membres du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens avant d'assister dimanche à la messe présidée par le pape en la solennité des saints Pierre et Paul, patrons de l'église de Rome, en la basilique Saint-Pierre. L'ancien nonce apostolique en République dominicaine est réduit à l'état laïque. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi le Saint-Siège dans un communiqué. Le texte précise que le jugement en première instance du procès canonique contre Mgr Joseph Wesolowski s'est achevé ces jours-ci auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il a 2 mois pour faire appel du jugement. La procédure pénale auprès des organes judiciaires du Vatican s'ouvrira dès que la sentence canonique aura un caractère définitif. Par ailleurs, précise le Saint-Siège, suite à certaines informations qui circulaient dans les médias, Mgr Wesolowski a effectivement joui d'une certaine liberté de mouvement durant l'enquête de la congrégation. En vertu de la sentence canonique qui vient d'être prononcée, toutes les mesures liées à la gravité du cas seront adoptées contre l'ancien nonce. Le prêtre polonais, soupçonné de délit contre des mineurs, avait été relevé de ses fonctions le 21 août dernier par le pape François et rappelé au Vatican. Et puis avant de refermer cette page consacrée à l'actualité vaticane, sachez que le pape François a dû annuler sa visite ce vendredi après-midi à l'hôpital Gemelli de Rome en raison d'une légère indisposition. C'est le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan et président de l'Institut d'études supérieures Toniolo, qui a célébré la messe et prononcé l'homélie préparée par le Saint-Père. En Centrafrique, des dizaines de personnes ont été tuées depuis lundi dernier dans la région de Bambari, au centre du pays, dans des combats qui ont opposé les miliciens anti-Balaka et les ex-rebelles de la Seleka. Le père Firmin Gbagua, vicaire général de la ville que nous avons joint sur place, dénonce un cycle infernal, attaque-représailles qui n'en finit pas et qui a fait près de 100 morts ces derniers jours. À l'origine de cette vague de violence dans la région de Bambari, le massacre de membres de la minorité Peul. Peuple d'origine nomade, les Peuls sont aujourd'hui plus ou moins sédentarisés et les anti-Balaka attaquent directement leurs troupeaux d'élevage dans l'est du pays. Beaucoup ont été contraints de fuir au Cameroun et au Tchad. La plupart se sont réfugiés dans des camps le long de la frontière. L'ONG CCFD Terre Solidaire a débloqué cette semaine une aide d'urgence de 50 000 euros pour leur venir en aide. Cette somme permettra d'apporter de la nourriture, des bâches, des nattes et des produits de première nécessité à 580 familles qui vivent dans des conditions d'extrême précarité. Bruno Anxelm est chargé de mission Afrique au CCFD. De retour de Centrafrique, il nous explique les enjeux profonds liés à la communauté Peul.
Il semble très fortement que cette communauté est le symbole de la réconciliation à venir, du travail à faire sur la question du retour. Parce que si les Centrafricains, d'une manière générale, ont présente une forme de rejet des musulmans, l'Apple reste quand même une communauté reconnue comme centrafricaine. Donc pour nous, pour le CCFD, il s'agit à travers ce projet d'urgence aussi d'envoyer des messages à cette communauté comme quoi elle reste tout à fait concernée par la situation centrafricaine, et il s'agit à travers ce projet d'urgence également de continuer à mettre en lien ces communautés à travers leurs représentants associatifs avec la société civile de Bangui.
Donc pour vous, la communauté Peul est un maillon essentiel pour la réconciliation future de la nation centrafricaine.
En fait, il y a deux aspects. Pour pouvoir mettre dans le débat national aujourd'hui en Centrafrique la question du retour des musulmans, la question du retour des Peul nous paraît être, je dirais, une première étape, probablement plus facile, même si la question sera très complexe. L'autre chose, c'est que envoyer des messages de solidarité à la communauté Peul, mettre cette communauté en lien avec la société civile centrafricaine, serait aussi une manière de la faire participer aux efforts de réconciliation et surtout d'éviter à terme que cette communauté puisse se radicaliser. Puisque si cette communauté se sent rejetée dans les camps de réfugiés, s'ils se sentent isolés, puisqu'ils ont quand même très peu d'appui, cette communauté risque peut-être d'être à l'écoute des messages envoyés par un certain nombre de chefs de cette communauté, enfin en tout cas de radicaux qui sont aujourd'hui dans la CELICA.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Place à présent à une page sombre de l'histoire de l'Europe. Ce 28 juin 2014 marque en effet le centenaire de l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc autrichien François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie et de sa femme. Ils tombaient tous deux sous les balles du nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip. C'est ce geste qui est à l'origine de la Première Guerre mondiale, un conflit qui bouleversa l'Europe et le monde, entraînant la disparition des empires austro-hongrois, russes, allemands et ottomans, redessinant la carte de l'Europe et du Proche-Orient, consacrant la nouvelle puissance américaine, favorisant l'arrivée des bolcheviks au pouvoir en Russie et provoquant le déclin de l'Europe. En cette année du centenaire, il était donc important de commémorer l'événement déclencheur La Mèche qui mit le feu à tout le vieux continent. Sarajevo ouvre ce 20e siècle de fer et de sang. Sarajevo le clôt aussi par le siège qu'elle subit à partir de 1992 lors de la guerre en ex-Yougoslavie. Sarajevo apparaît bien comme la ville européenne symbole du siècle passé, symbole de ses passions et de ses crimes. Joseph Zimet, directeur général de la mission française du centenaire de la Première Guerre mondiale, revient avec Xavier Sartre sur cet aspect de la capitale de la Bosnie-Herzégovine.
Sarajevo, c'est un petit peu dans l'imaginaire collectif une petite Jérusalem d'Europe avec ce paradoxe, ce statut, c'est-à-dire le symbole du vivre ensemble, ce carrefour des civilisations. Sarajevo est une ville qui accueille des Juifs d'Espagne après 1492. C'est une ville qui est au carrefour de religions, de courants spirituels et de peuples dans l'Europe. Donc c'est une ville qui a eu une occupation successive par l'Empire ottoman, puis qui a été reconquise par l'Empire austro-hongrois, qui a été ensuite sous un autre empire, l'Union soviétique, et qui aujourd'hui cherche son chemin dans un autre ensemble supranational, qui pourrait être l'Europe, avec une coexistence de peuples, tantôt pacifiques, tantôt turbulents, et avec des périodes de paix, de prospérité, et des périodes de déchirement atroces. Je pense que c'est difficile de faire de cette ville un lieu témoin de l'histoire européenne, mais il est sûr que de cet attentat en 14 qui se passe là un petit peu par accident, hein, l'archiduc héritier de l'Empire austro-hongrois est à Sarajevo un petit peu par hasard, il est venu assister à des manœuvres militaires, il fait une visite protocolaire dans cette ville de Sarajevo, c'est un jour important dans l'histoire des Serbes, ce jour qui célèbre l'anniversaire de la défaite de Kosovo de 1389, mais il ne faut pas non plus trop polariser le fait que l'archiduc ait été assassiné à Sarajevo. C'est à Sarajevo qu'il a été assassiné, pour des raisons logiques au plan politique, c'est-à-dire il y a cet irrédentisme serbe qui s'exprime aux marges de l'Empire austro-hongrois, mais Sarajevo est une ville qui aurait pu continuer à vivre paisiblement dans l'Empire austro-hongrois, comme d'autres nationalités à l'époque dans cet empire, et l'archiduc aurait pu être assassiné à Marseille ou à Salonique. Bon, c'est à Sarajevo. Alors, il y a ensuite effectivement cette nouvelle dynamique d'éclatement et de heurts entre les communautés pendant le siège. Je pense qu'il y a aujourd'hui un symbole aussi important. Beaucoup de gens considèrent qu'il y a eu une non-assistance à peuple en danger ou à ville en danger lors du siège. Et il y a une grande culpabilité dans les opinions publiques européennes sur le drame qui s'est joué à Sarajevo et dans l'incapacité des Européens à empêcher, à 2 heures des grandes capitales à peine, le drame du siège et de la guerre en Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie. Donc il y a incontestablement, quelque chose de l'ordre du symbole dans cette ville de Sarajevo, symbole des drames qui ont frappé l'Europe, symbole de l'espoir, de communautés capables de vivre ensemble, et puis symbole d'espoir pour l'avenir aussi, car aujourd'hui Sarajevo vit en paix, les Bosniens aspirent à vivre en paix, et donc c'est sur ce symbole-là que nous pouvons sans doute jouer à travers cette commémoration. Donc c'est ça qui se joue aussi à Sarajevo le 28 juin 2014.
Ça fait pas quand même un peu beaucoup pour une petite ville comme Sarajevo. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre autant l'accent sur cette ville, selon vous ?
C'est un héritage sans doute lourd à porter pour aujourd'hui les habitants, le maire, les responsables, les autorités de Sarajevo. Mais en même temps, c'est une ville carrefour. C'est une ville où se frottent, où s'entrechoquent depuis le XVe siècle des intérêts, des courants de pensée, des courants spirituels et religieux. Il se passe quelque chose là. Évidemment que c'est lourd de porter l'histoire européenne sur ses épaules pour une petite ville comme Sarajevo. Et c'est sans doute une responsabilité excessive que de confier cette mission historique à cette ville, mais cette ville est un théâtre où l'histoire se déroule, où l'histoire s'écoule, et c'est ça le symbole. Donc il faut arriver à associer, cette ville ne peut pas être spectateur de sa propre histoire, ou spectateur en tout cas d'un rassemblement européen qui se ferait en dehors d'elle. Il faut que Sarajevo soit acteur aujourd'hui de son histoire. Je pense que c'est positif pour la ville d'accueillir aujourd'hui une réflexion européenne sur le XXe siècle. C'est intéressant pour cette ville qui a besoin d'échanges, qui a besoin d'ouverture, qui a besoin d'attention, que de pouvoir accueillir des gens venus de toute l'Europe et surtout qu'un regard positif soit porté sur la ville. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Vous savez qu'à Bosnie-Herzégovine vient de connaître des inondations dans le nord très très douloureuses qui ont provoqué des destructions importantes, des morts. C'est une ville qui a besoin d'espoir, qui a besoin de pouvoir regarder l'avenir. C'est une ville qui a été frappée par des tragédies à répétition au XXe siècle. Si aujourd'hui, les Européens peuvent aider et nourrir une vision d'avenir aux côtés des populations, aux côtés des responsables politiques et des différentes communautés là-bas. Je pense que ce que nous pouvons faire là-bas, c'est positif de ce point de vue-là.
Quelle leçon retenir de l'attentat de Sarajevo ?
Il y a un livre qui a été écrit par Christopher Clark qui fait beaucoup de bruit en Europe, en Allemagne, dans les Balkans. Ce livre s'appelle « Les somnambules ». C'est un livre très sévère pour les responsables, les diplomates et les hommes politiques aux affaires il y a un siècle. Clark dit « Les gens qui nous dirigeaient il y a un siècle se sont comportés de façon totalement irresponsable et ils sont rentrés les yeux ouverts dans leur suicide, cette tragédie dans laquelle ils se sont laissés entraîner en connaissance de cause sans être capables d'enrayer ce processus. » Et le livre de Clark suscite des débats aujourd'hui entre responsables politiques. Le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Steinmeier, a organisé une tournée, un cycle de débats en Allemagne et à l'étranger où il est allé débattre avec un certain nombre de ses homologues sur notre diplomatie aujourd'hui, sur l'Europe aujourd'hui, sur notre façon aujourd'hui de réagir aux crises, dans un contexte en plus, vous le savez, marqué par une crise aujourd'hui aux marges de l'Europe, en Ukraine, avec des logiques de division, de blocs, d'influence, qui ne rappellent pas la situation forcément de la Bosnie-Herzégovine en 14, mais qui nous montrent que l'histoire continue. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est cette mise en perspective, et c'est regarder comment les diplomates, les dirigeants ont été incapables, en un mois, de gérer une crise qui, aujourd'hui, avec notre tissu d'institutions régional, supranational, aurait permis sans doute, peut-être pas d'éteindre totalement l'incendie, mais d'endiguer ce choc. Et au fond, aujourd'hui, on peut penser que le tissu d'institutions créées, c'est sans doute ça l'héritage positif de la Grande Guerre. Les Nations Unies, puis les organisations régionales et les jurisprudences des cours, la Cour européenne des droits de l'homme, distillent quand même une culture de paix et empêchent sans doute, au fond, des catastrophes comme il y a un siècle. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en regard, sans être forcément un européiste béat. On peut quand même penser que l'Union européenne aujourd'hui arrive par des mesures politiques, par des mesures économiques, par des sanctions, à agir et à empêcher peut-être des situations comme cet enchaînement néfaste, cette crise de l'été 14, 1914, où entre le 28 juin et le 28 juillet, une succession de mauvaises décisions à Berlin, à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Vienne, à Belgrade, provoque l'embrasement que vous connaissez, une des plus grandes catastrophes, la catastrophe matricielle du XXe siècle.
Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Nous consacrons une fenêtre spéciale au centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous y retrouverez dans les prochains mois analyse et éclairage avec des historiens, des écrivains, des religieux, mais aussi des chercheurs. C'est la fin de ce magazine. Je vous remercie de l'avoir suivi.